Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, justement, poursuivons la discussion sur le hockey qu'on a amorcé avec Alain tantôt et Danny Dubé puis Stéphane Quintal. La question est assez facile. Est-ce que c'est nécessaire un comité pour revoir le hockey ou c'est une fixation du premier ministre qui est un fan de hockey? Luc.
Moi, je résumerais en une première phrase introductive. La semaine où le premier ministre aurait dû annoncer du basket, de la boxe, du skateboard puis du rap à Ville-Saint-Michel, il est allé annoncer du hockey au Centre Bell. Parce que c'est ça la patente. On veut que les jeunes, on veut raccrocher les jeunes à quelque chose. On veut les raccrocher à leur école, on veut les raccrocher à leur milieu, on veut avoir des solidarités de groupe. Il en a parlé Stéphane Quintal tantôt, il a appris la vie à travers le hockey. Il veut avoir des solidarités de groupe, l'impression de faire partie de quelque chose de positif, de soutenir quelqu'un quand il en a besoin. Tout ça, c'est excellent. C'est excellent. Puis tu peux l'avoir dans plein de sports. Mais là, le premier ministre a décidé, c'est le hockey. Et c'est pas mauvais, pas méchant. Je veux dire, c'est tant mieux pour le hockey qu'il y ait des gens intelligents comme Quintal qui s'assoient autour d'une table avec plein... En fait, j'ai trouvé que le comité était composé de gens très intelligents et que les interactions vont être excellentes. Je suis sûr qu'il va sortir des belles choses de là. Mais ça, c'est Hockey Québec aurait pu faire ça. Puis Soccer Québec aurait pu faire ça aussi. Est-ce que le premier ministre a à faire un choix puis dire, mesdames et messieurs, c'est le hockey? Parce que moi, je considère que non, non, non et non. Il y a des pays qui ont fait ça. Pour les sports nationaux, il y a des bourses qui sont données pour les sports olympiques par des pays comme le Canada, des programmes de sport où ils donnent des bourses pour l'excellence. C'est des programmes de bourses. Mais ils choisissent pas. Ils disent pas, je vais donner plus au soccer féminin puis je vais donner moins au badminton. Il y a des pays qui choisissent. Comme par exemple la France avec le football. La France a un programme de football extraordinaire. D'ailleurs, dans la Coupe du Monde, t'as l'équipe de France qui va de mieux en mieux, mais il y a énormément de joueurs qui jouent pour d'autres pays qui sont passés par le programme français. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est justement une école de raccrochage. C'est une école où tu peux aller chercher des jeunes qui sont pas performants dans le milieu scolaire ou dans leur milieu en règle générale, puis tu les raccroches avec un programme qui leur donne une raison d'être, une passion, un groupe.
Nathalie.
Je suis tellement d'accord avec Luc. On est vraiment plus dans l'ordre du fantasme d'un premier ministre fan de hockey que d'un réel besoin. Luc l'a dit, pourquoi Hockey Québec n'aurait pas pu faire ça? Effectivement, j'entendais, comme Luc, Danny Côté et puis Stéphane Quintal, par exemple, dire on pouvait arrêter de publier les statistiques là durant les matchs sur les meilleurs compteurs et tout ça. Hockey Québec peut très bien faire ça. On n'a pas besoin d'un comité de 15 personnes pour régler ça. Ce qui m'achale avec la vision du premier ministre, c'est qu'il ramène tout à la politique. Lui, ça le frustre, notre premier ministre, hein, de voir qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois au sein du Canadien et de voir le Canadien engranger les défaites l'une après les autres. Il a raison de soulever effectivement le fait que le Canadien, il y a moins de Québécois. Là. Je trouvais des statistiques. Kevin Breton, merci à Kevin Breton, journaliste à Radio-Canada. En 1991, 21% de Québécois chez le Canadien. En 2021, c'est 4%. Puis effectivement, entre 2000 et 2021, il y a moins de Québécois dans la Ligue nationale. Mais il y a une raison derrière ça. Un, parce qu'on a ouvert le bassin des joueurs au fil des années. Hein. Il y a plus de joueurs qui viennent de la Russie, qui viennent de l'Europe. Deuxièmement, pour ce qui est de... Le premier ministre dit il faut redonner ses lettres de noblesse au hockey et il semble dire qu'il y a péril à la demeure, que le hockey est en perte de vitesse. Bien, il y a une explication derrière ça. Et les statistiques dans un premier temps. Parce que, un, il y a moins d'enfants au Québec. S'il y a moins d'enfants au Québec depuis les années 60-70, c'est peut-être parce qu'effectivement, on en fait moins. Un, puis deuxièmement, il y a d'autres sports qui sont apparus au fil des années. Le soccer, le football, le basketball. Il y a d'autres sports qui intéressent nos jeunes que le hockey. Alors, moi, je me dis, c'est vraiment achalant cette façon que le premier ministre, oui, de tout ramener à la politique, mais avec son nationalisme nationalisme identitaire, là, c'est comme si notre salut national, effectivement, une fois de plus, passe par le fait que ça nous prend plus de jeunes joueurs de hockey. Remarquez que pour ce qui est du hockey féminin, j'ouvre une parenthèse, parce que là, il y a probablement des choses à faire. Mais prenez l'exemple du débat, là, Paul, là, sur le coût des équipements de hockey. Là. Oui, c'est vrai que ça coûte cher pour les parents, le hockey. Il existe un crédit d'impôt, pour ceux et celles qui ne le savent pas, là, de 500 $ par année. C'est sûr que c'est peut-être
pas suffisant.
Mais
quand tu ne payes pas d'impôt, un crédit d'impôt, ça t'aide pas.
Mais je le sais, Paul. Mais... Sauf qu'à un moment donné, c'est pas à l'État à payer à tout payer pour les équipements de hockey des enfants. Là. À un moment donné, ça va finir quand, ça, là?
Ben aussi, il y a une autre affaire, là. C'est que il n'y a pas de limite à l'ambition des parents. Mon fils jouait pré-novice, OK? Nous autres, on était centre-sud. On perdait 11-1, pas de problème. Mais quand on marquait le but, on était content, moi, t'as dit, par exemple. Toujours est-il qu'on s'en va à Blainville. Les jeunes arrivent en rang serré, l'équipe adverse. Ils ont tous le même manteau. Pas le même chandail sur la glace, le même manteau dans les estrades. Puis là, ils enlèvent leur manteau. Puis là, ils ont une petite veste en dessous. Elle avait que c'est la même veste pour tout le monde, avec le petit logo.
Mais oui,
là,
mais
deux
oui.
minutes, c'est pas fini, ça. Il joue. Bon, bien, j'ai l'impression qu'il y a des patins en feu, là. Ça, c'est sûr qu'il faisait des entraînements très, très fréquents. T'es novice, là. Deux minutes. Les coachs en arrière du banc, le même veston, le même suit avec le logo. Puis j'apprends que les coachs étaient payés. Les parents se cotisaient pour payer le coach. Novice. Hey,
c'est devenu une folie,
c'est pas fini. Des parents qui déménagent de ville parce que l'autre équipe est meilleure. Toute la famille, on déménage ou ils se séparent. Il y a une famille, il y a une partie qui reste en ville. Méchante folie. Et là, tu vas me dire que c'est un sport accessible? Oublie ça. Le jeune qui arrive, là, puis oui, là, puis qu'il a jamais joué au hockey avant, là, il est dans les catacombes.
Moi, je connais pas le quartier Saint-Michel, mais il y a des auditeurs qui m'écrivent ce matin, je veux dire quelque chose peut-être pas vrai, mais c'est deux ou trois qui me disent ça, là. Qu'en termes d'infrastructure sportive, il n'y a pas grand-chose.
Non, il n'y a rien. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose. Des villes pauvres, initialement, qui n'étaient pas fusionnées à Montréal à une certaine époque. Le maire Ryan, qui a sévi pendant je ne sais pas combien d'années, plus de 20 ans, à Montréal-Nord, n'a jamais rien construit. Il ne voulait pas construire, ça coûte trop cher, pas de bibliothèque, pas de piscine. Il y a une piscine pour Montréal-Nord. Et il a laissé construire des bungalows à perte de vue le long de la rivière. Même pas d'accès aux rives sur cette partie-là de la rivière. Il y en a à Annecy. Mais là, dans Montréal-Nord, très peu. Pendant des années, il n'y a pas eu d'investissement. Puis là, il faut en faire. Puis pas nécessairement des gros investissements. Là, un terrain de basket, là, terrain de basket, là, des estrades autour, puis du monde. Puis quand on dit 3 à 5 millions de dollars d'augmentation des budgets communautaires pour la pauvreté et la violence qui est associée, mais c'est insuffisant. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut investir massivement dans les écoles. Et le timing du premier ministre est tellement mauvais. Mauvais. Oui, une organisation de hockey plus performante. Oui, essayer d'aller dévisser là, ces réflexes qu'on a de performance chez les novices. C'est important de le faire. Mais s'il vous plaît, une réflexion plus large, une réflexion à hauteur du premier ministre.
Nathalie?
Ben, en fait... Je partage tellement le point de vue de Luc ce matin. Moi, j'ai vu la création de ce comité, en fait, il y a deux objectifs. Le premier objectif, comme Dani l'a dit, c'est de redonner le goût du sport aux jeunes, c'est que s'assurer que le sport se pratique de façon plus sécuritaire. Mais l'autre objectif, qui est plus ou moins avoué, effectivement, c'est cette obsession du premier ministre de voir davantage de Québécois jouer dans la Ligue nationale et jouer pour le Canadien de Montréal. Mais le hockey qu'on pratiquait dans le temps de Maurice Richard, il est bien différent du hockey professionnel, j'entends, qu'on pratique aujourd'hui. Et ça, le premier ministre semble ne pas l'avoir compris. Et il vit des frustrations comme fan de hockey, ça se comprend. Il n'est pas le seul au Québec face aux défaites répétées du Canadien de Montréal.
Il est mieux s'habituer, la saison va être longue.
Ben voilà, exactement. Mais de là, comprenez-vous, à mobiliser des ressources de l'État, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est...
Non, il y a quelque chose que lui ne comprend pas.
Oui, ben voilà, exactement. Alors, tout à fait, il y a quelque chose que lui ne comprend pas, et je ne sais pas où ça va nous mener, parce que évidemment, les Danny Côté, les Stéphane Quintal, là, les Marc Denis, ils sont plein de bonne volonté. J'écoutais Isabelle Charest, la ministre du Sport, Paul à ton micro. Elle est aussi pleine de bonne volonté. Oui, l'importance de construire des infrastructures, selon moi, c'est la première chose qu'il faut faire.
Ah, OK. Nathalie, on peut-tu reprendre ce point-là? Moi, ça, là, dans une prochaine chronique, non. Construire des infrastructures au coût d'une aréna, là, le coût de participation
pour
d'une
le sport,
heure...
j'entends. Pour le sport, j'entends.
Oui, c'est ça. Parce qu'une heure de hockey, combien ça coûte à la société par rapport à une heure de basket ou de soccer?
Mais le hockey, Luc, ça fait partie de notre ADN. On s'entend là-dessus.
C'est correct, mais on a la base. Là. Construire encore plus. Là. Mm.
Ça, c'est un autre sujet. Arena, ouais, ça, plancher sujet. De ouais. football, terrain de football. Ouais.
Ouais. Ouais. Le, Paul, je veux corriger, j'ai dit Danny Côté. C'est Danny Dubé.
Oui,
désolé
Dubé.
Pour Danny.
On s'arrête pour au retour, vendredi, rapport des commissaires.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, vendredi, rapport de la commission. Commençons avec Nathalie.
Oui,
disons
monsieur.
Ses points forts et points faibles de la semaine.
Oui, absolument. Le chiffre de la semaine, pour moi, c'est 1000. 1000, pourquoi? 1000 pour 1000 $. C'est le profit qu'a enregistré à chaque seconde, ou qu'enregistre à chaque seconde, devrais-je dire, Pfizer, BioNTech et Moderna. 34 milliards de profits, imaginez-vous donc, avant impôt cette année et pendant ce temps.
Et c'est là où elle... 34 milliards?
Oui, exactement. Et pendant ce temps, et c'est là le scandale, il y a seulement 2% des personnes vivant dans les pays à faible revenu qui sont vaccinées. Moi, je me dis non seulement c'est scandaleux, mais on n'a absolument rien compris. L'autre élément qui a retenu mon attention, ben, c'est évidemment tout ce qui s'est passé autour du décès de Thomas Trudel à Montréal. Ça suffit. Ça suffit, elle l'a dit deux fois, la ministre responsable de Montréal, Chantal Rouleau. Alors, faut se rappeler qu'on en est au 31e homicide à Montréal. Moi, je vous dis, là, ça peut plus durer. Je pense qu'on a atteint une espèce de... Thomas Trudel est devenu le symbole de quelque chose qui n'est plus acceptable pour Montréal, de cette violence qui n'est plus acceptable dans les rues de Montréal. Et là, c'est à la mairesse d'assumer son rôle de chef d'orchestre pour interpeller Ottawa et Québec. Il faut qu'elle convie tout ce beau monde-là autour d'une grande table. Parce que ce qui m'embête, je t'entendais ce matin à la chronique de 7 heures, Luc, avec Paul. Mm-hmm. T'as raison, là, on assiste à une espèce de balle de partie de balle de ping-pong. Là, à un moment donné, ça prend quelqu'un qui se lève et qui dit « Assez, c'est assez. Voici, moi, j'assume mon leadership. » Comme mairesse de Montréal, je verrais très bien Valérie Plante faire ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire fédérer autour d'elle les gens, les représentants d'Ottawa et de Québec. Ma citation de la semaine, si on avait parlé d'enfants, on serait probablement tous dehors en train de se déchirer la chemise, mais là, c'est des aînés, c'est comme si c'était dans l'air du temps que c'était naturel. Vous vous doutez bien peut-être de qui je parle, la coroner Jeanne Kamel. Et il faut le dire, hein, c'est une coroner qui a pas froid aux yeux, elle pose des vraies questions. Et ce à quoi on a assisté depuis toute la semaine, vous avez vu ça, là. Encore une fois, une partie de balle de ping-pong, ça a commencé par le docteur Arruda qui dit « Non, on n'a pas été consulté par le ministère de la Santé. » Après ça, le ministère de la Santé qui dit « Ben oui, on était prêts, mais entre le... Hein. » Après ça, on a Mme McCann, l'ex-ministre de la Santé, qui va dire cette semaine « Ben, c'est au PDG à faire leur job. » Finalement, y a-tu quelqu'un qui est responsable de quelque chose dans ce dossier-là? J'espère qu'on va finir par le savoir. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qu'on veut connaître, c'est la vérité. Il y a pas personne qui va aller en prison là, après le rapport de la commissaire après son enquête, de la coroner, pardon. Mais ce qu'on a besoin, c'est de connaître la vérité et qui est responsable de quoi dans ce fiasco qu'on a connu, qui, faut-il le rappeler, a conduit quoi 6000 aînés un peu plus à la mort. Et je terminerai sur une note un peu humoristique et légère, crémeuse ou traditionnelle, messieurs. Dans le cadre du 70e anniversaire de Saint-Hubert, ils ont commandé un sondage. Je vous pose la question, Luc, Paul, êtes-vous plus crémeux ou traditionnel?
Traditionnel.
Hein, c'est vrai? Oui, oui traditionnel. Ah bon, ouais, Luc,
moi,
t'es quoi,
je
toi?
Mange qui met ça à table.
Puis il y a un pourcentage, c'est un mix des deux. Hein? Je pense que c'était
3%. C'est 3%, effectivement. Mais effectivement, ça, c'est vraiment absolument formidable comme sondage. Et c'est très, très sérieux, là, parce que là, il y a le profil des Québécois léger à pousser des questions très, très haut. Oh, oui, 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 tout à fait. Et on apprend que 40% des gens à Montréal sont plus traditionnels, Luc. Mais moi, je suis du type crémeuse, honnêtement.
Ah, ben, c'est ça, soyons fous.
Oui, soyons fous, tout à fait, et mélangeons les genres. Mais je trouvais ça très, très drôle, honnêtement, crémeuse ou traditionnelle. Puis ça aussi, ça fait partie de notre, presque de, peut-être pas de notre culture, mais de nos traditions, hein, crémeuse ou traditionnelle. Quand t'as juste à prononcer la phrase, à poser la question, puis tu sais déjà effectivement de quoi il s'agit.
Parfait, Luc.
Fait que Dubé fait le tour des régions, notre bon ministre Dubé, il va visiter les hôpitaux, il s'aperçoit qu'il y en a plusieurs qui sont en décrépitude, puis c'est une bonne affaire que le ministre marche comme ça, puis aille visiter ses médecins, ses régions, ses infirmières. Et Abbé-Saint-Paul, belle surprise de productivité et belle surprise de gestion du temps, très peu de TSO, pourtant un endroit où ils avaient des énormes problèmes, et ils ont introduit l'horaire 12 heures. Miracle à Memphis. Plus de problèmes de TSO ou à peu près plus. Plage horaire où il manquait 35 personnes, il en manque très peu dorénavant. Tout le monde, alléluia, alléluia, ça marche, ça marche, ça marche. Fait que le premier ministre passe à la région suivante, puis il s'intéresse à la région suivante. Il n'a pas l'idée de... Moi, je dirais, amène donc l'idée là, de Baie-Saint-Paul tout partout. Comment ça se fait, donc?
Pas du mur à mur, Luc, au Québec, on veut pas ça.
OK, c'est correct. Là, c'est un mot du bon point, t'as raison.
C'est pas peut-être la solution est différente avec le même résultat.
Non. Ça, ils ont testé pas mal d'affaires, mais au moins, OK, d'accord, c'est pas le premier ministre, le ministre qui l'impose, je suis bien d'accord avec ça, mais qu'il diffuse largement, qu'il donne des incitatives, qu'il regarde comment s'est conçue la solution à Baie-Saint-Paul, puis qu'il propose le même processus de conception, c'est-à-dire du temps, des gens pour discuter de ça. Puis si c'est ça, la solution miracle, ben peut-être qu'on aurait quelque chose en main. En tout cas, ça a l'air de marcher à Baie-Saint-Paul, puis ça marche dans les hôpitaux anglophones. 10 000 km² d'habitude de coupe de bois, de coupe, de déviergeage complet. Là, on transforme la forêt de l'Amazonie en champ. On n'en laisse pas un petit arbre. Là. C'est des pâturages que l'on crée. 10 000 km². Ben là, on est passé à 14 000 l'année de la flop 26. 14 000.
Comment t'as appelé ça?
C'est pas moi, c'est le journal Libération.
Oui, j'ai appelé ça.
La flop 26.
Bilan de la flop 26.
C'est bon.
Fait que là, tu dis, puis le Brésil qui a pris un engagement sur l'arrêt de la déforestation, mais à la tactique des autres, avec comme les autres, bien loin dans le temps, là, très, très loin dans le temps. Avec 14 000 km². Mais nous autres, ici, au Canada, on n'est pas en reste parce que c'est l'année record de production de pétrole des sables bitumineux. C'est notre année record. Hein? L'année où est-ce qu'on s'en va à la COP, la main sur le front, la main renversée sur le front, le regard doux. Il est temps. Il est temps de quoi? Il est temps de produire plus de pétrole. Je peux-tu te dire que faut que t'en sauves en maudit des pailles en plastique pour arriver à 3,6 millions de barils par jour? Fait que ces mots juste de discours-là, elle avait raison, la Greta. C'est du green, le festival du greenwashing. Dans les plus gros producteurs de GES du monde entier, il y a le Brésil et le Canada. En tête de peloton, là, avec la Russie, les États-Unis, l'Australie. Mais nous autres, on est largement en tête et on se permet des grands discours sur l'environnement.
Et ton dernier point?
Le discours inaugural de Valérie Plante. Il y a quelqu'un qui a volé son discours de victoire puis est allé y mettre un discours de défaite dans les mains.
Comment ça?
Ben là, il y avait ça, dans ce discours-là, tu jurais qu'elle a gagné minoritaire. On va se mettre à l'écoute des Montréalais.
Ben, j'espère.
Laisse faire, toi. Les Montréalais, c'est pas un orchestre symphonique, ça. Il y a tout le monde n'a pas ça, un instrument dédié puis une partition dédiée. Il y a une cacophonie extraordinaire à travers les Montréalais. C'est pas, on va écouter les Montréalais. C'est quoi, toi, ton programme? T'as été élu pour quoi? Tu vas faire quoi? Puis je veux le savoir, puis je veux que tu le fasses. Puis cette idée-là de « on va écouter les Montréalais, on va écouter le consensus », ça, là, c'est typique d'un certain populisme qui consiste à dire « j'ai une relation spéciale avec le peuple ».
Moi, je te fais croire que je te consulte aussi.
C'est ça. Je te fais croire que je te consulte, que je t'écoute, etc. Puis moi, je suis là pour vous écouter. Tu sais, Camille Heaud, là, le plus grand populiste de l'histoire de Montréal, le maire le plus populiste de l'histoire de Montréal, tu sais, il s'est fait enfermer, emprisonner parce qu'il avait parlé contre la conscription lors de la Deuxième Guerre mondiale. Quand il sort de prison, il s'en va au balcon du marché Saint-Jacques. La foule est réunie dans la rue. Puis là, son discours, tu t'attends à ce qu'il va dire, un discours là, digne de l'acte qu'il a posé, là, qui dit « j'étais contre parce que si, parce que ça, voici c'est quoi les valeurs démocratiques et de paix, etc. » Il prend le micro puis il crie « Mémez-vous encore!
» Ben, c'est une popée de question.
C'est ça. Il y a des fois où c'est le temps de... Voilà.
Ben, c'est comme le troisième lien à Québec. On n'a pas de position du maire.
Ah,
il est en mode écoute.
En mode écoute.
Ah. Bon, ben, bonne écoute de fin de semaine aussi, puis reposez-vous. On vous retrouve lundi.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.